Merci beaucoup. Alors, je vais demander à Madame Sagrafena de nous rapporter le point numéro 10, le dernier point.
Oui, dans le cadre du rapprochement Ville de Metz et CAS de la petite enfance, permettez-moi, Monsieur le maire, de souligner le travail remarquable de Madame Héloïse, qui a donc piloté ce travail, et de remercier tous les services qui ont effectivement se sont impliqués dans ce rapprochement, et en particulier pour cette motion, le service patrimoine. Cette motion propose d'abord que la ville de Metz se substitue au CAS pour la reprise du patrimoine immobilier, mobilier ou circulant, tel que vous pouvez le trouver en annexe de cette motion, et ensuite que la ville signe une convention avec le CCAS pour la mise à disposition des locaux laissés vacants au CCAS pour y installer le pôle municipal juridique et moyens généraux. La motion est en conséquence.
Merci. Alors, j'ouvre le débat et j'ai noté, il y a des intervenants dans le groupe démocrate, centriste et indépendant. Il y a Madame Migaud et Madame Sagrafena qui sont inscrits. Dans le groupe Firme d'être Messin, il y a Madame Kosik et Monsieur Lecoq. Et dans le groupe municipal d'Union de la droite et du centre, il y a Monsieur Thiel, mais il n'est plus là. Donc, je le raye. Madame Colin-Osterlé, non ? Alors, Monsieur Wendling, attendez, madame, j'arrive au fond national. Monsieur Wendling, parce que madame Zimmermann m'a fait passer une liste où vous ne figuriez pas, mais aucune importance. Hein, voilà. Et Monsieur Lebeau, qui est inscrit. Et puis madame Groslet, pour le Front national. Et madame Singer. Voilà. Eh bien. On peut y aller sur l'ensemble de ces points. Pour ça, on les votera séparément comme le veut la loi. Eh bien, écoutez, on va commencer par Monsieur Wendling. Allez-y. Monsieur Wendling.
C'est à toi. À vous. Je commence ?
Oui.
Bien, Monsieur le maire, depuis maintenant plusieurs décennies, depuis près de 30 ans, le CCAS, qui s'appelait avant le BAS, était une grande fierté de la ville de Metz et était souvent pris en exemple pour sa politique en faveur des seniors ou de la petite enfance. Au-delà des alternances, des clivages politiques, jusqu'à maintenant, depuis près de 30 ans, beaucoup d'élus, mais aussi beaucoup de fonctionnaires se sont investis, ont passé toute leur carrière, pour certains, au CCAS, ont essayé d'améliorer le service qu'ils apportaient à ces personnes en difficulté, ou bien dans le cadre de la petite enfance, ou bien dans le cadre de la politique en faveur des seniors. Dans un domaine qui était à l'époque naissant, ils ont su inventer des tas de formes de prise en charge qui n'existaient pas. Et aujourd'hui, en faisant passer le CCAS d'un effectif de près de 400 personnes à 51, et en transférant aujourd'hui l'activité petite enfance et demain l'activité en faveur des seniors, vous êtes en train de démanteler totalement le CCAS pour le réduire à une partie totalement congrue. Vous qui êtes férus d'histoire, vous ne vous êtes jamais posé la question pourquoi le CCAS et la ville, quelle que soit la ville, étaient des entités distinctes et différentes. Eh bien, elles sont distinctes parce qu'elles sont différentes. Et si depuis des années, on a pu faire des choses dans les CCAS, c'est parce que justement, on n'avait pas la même forme juridique, on n'avait pas les mêmes, parfois, lourdeurs administratives qu'on avait dans les villes, dans ces genres de collectivités. Imaginez demain, si par exemple il fallait donner, comme le fait le CCAS, 50 euros à quelqu'un pour finir le mois. Si c'était la ville qui devait le donner, il faudrait une délibération du conseil municipal, ça ne serait pas possible. Dans un certain nombre d'autres domaines, cette facilité qu'avait le CCAS a aussi permis de construire des projets plus rapidement, plus efficacement et de pouvoir répondre de manière plus humaine aux attentes d'une population qui, c'est vrai, parfois, parce qu'elle est en grande difficulté, a besoin d'une réponse concrète, efficace et rapide. Le projet que vous nous proposez pose une question à laquelle je n'ai pas eu de réponse d'ailleurs au conseil d'administration du CCAS, c'est celui de savoir si ça va engendrer ou pas des économies. Parce que là-dessus, j'entends tout et son contraire. Je vois Madame Bory qui me dit « c'est pas le problème, on fait pas ça pour faire des économies ». J'entends Monsieur le maire qui me dit « si, on fait ça pour faire des économies », et je vois dans la presse, on annonce 200 000 euros aujourd'hui, 500 000 demain. Et je crois que c'est une erreur de penser, d'abord, que je pense que c'est une erreur de penser que l'on va faire des économies pour deux raisons. La première, c'est parce que vous pensez qu'avec la mutualisation, vous allez réaliser des économies. Les exemples qu'on a autour de nous de mutualisation montrent qu'elles ne sont pas toujours, et même pas souvent, source d'économies. Vous savez, vous parlez toujours, par exemple, des intercommunalités, en disant « c'est formidable l'intercommunalité ». C'est vrai que c'était une bonne idée au départ. Je ne suis pas sûr que ça ait amené beaucoup d'économies, et je ne connais pas, moi, en tous les cas, une collectivité, enfin un habitant, une ville, qui se soit retrouvée en intercommunalité et dont les habitants payent aujourd'hui moins d'impôts qu'avant. Par conséquent, vous n'engendrez pas forcément d'économies de ce point de vue-là. Et le deuxième point, mais qui là est plus profond, plus structurel, la petite enfance, c'est un domaine qui a émergé, la prise en charge de la petite enfance, après la Seconde Guerre mondiale. Jusque-là, on considérait, c'était la phrase de Freud, que l'enfant était un tube digestif. On ne s'en occupait pas, et on commençait à s'en occuper une fois qu'il commençait à parler, vers 3 ans, 4 ans, 5 ans. Il y a eu tout un courant d'après-guerre, avec des gens, évidemment, des pédopsychiatres, comme Françoise Dolto, mais aussi des pédiatres, comme Robert Debré, comme le professeur Neyman, pour parler à quelqu'un qui parlera plus à notre ville, qui ont pensé qu'il fallait prendre l'enfant en charge pour son éveil dès la naissance. Ça a complètement changé la vision qu'on avait du petit enfant, et on a développé à partir de ce moment-là des structures d'accueil, de crèches, d'assistantes maternelles, etc. Et demain, monsieur le maire, quand je vous entends dire « mais de toute façon, je ne construirai plus de crèche à Metz, parce que c'est vrai, Metz a un taux de crèche par rapport au nombre d'enfants qui est important, qui est plus important que dans d'autres villes », je crois que vous ne pouvez pas dire ça. Aujourd'hui, l'accueil de la petite enfance, comme l'accueil de l'enfance, ça répond à une obligation, je dirais, une nécessité avec laquelle on ne peut pas, à laquelle on ne peut pas se soustraire. Personne, aucun maire ne dirait, moi, de toute façon, je ne construirai plus d'école dans ma ville. Si demain, vous êtes maire d'une ville et que, par chance, vous avez un nombre d'enfants qui augmente, vous construirez une école. Eh bien, c'est exactement le même problème pour l'accueil de la petite enfance. Donc, penser qu'on va faire des économies sur le long terme, aujourd'hui, on ne peut pas le dire parce qu'on ne sait pas comment vont évoluer les choses. Et si demain, effectivement, on a plus d'enfants de moins de 3 ans à Metz, eh bien, je pense qu'il faudra réfléchir à construire d'autres structures d'accueil. Alors, on pourra discuter des modalités, mais en tous les cas, je pense qu'on ne pourra pas s'y soustraire. Là, le point suivant que je voudrais aborder, c'est que je pense, contrairement à vous, que ça va diminuer la qualité du service. Le fait d'être dans une structure comme le CCAS, où les gens ont l'habitude de travailler ensemble depuis des années, où on est dans un domaine où il faut être très réactif, où on peut aller vite parce que justement les gens se connaissent, ont l'habitude de travailler ensemble, fait qu'on a un service qui est de meilleure qualité qu'une fois qu'il sera, entre guillemets, dilué dans les services de la ville. Vous savez, on parle par exemple, vous l'avez annoncé, dans les foyers logements qui sont gérés par le CCAS, la maintenance sera assurée par les services de la ville et plus par les services propres au CCAS. Moi, ça me fait un peu peur quand je vois que dans les écoles aujourd'hui, parfois, pour changer une ampoule, il faut envoyer des mails à droite, à gauche, qui passent dans les services de service en service. Je ne suis pas sûr que la qualité du service sera meilleure que dans une petite structure, entre guillemets, comme l'était le CCAS. Et puis, alors, dernier point, c'est plus anecdotique. Vous parlez de la suppression du poste de DGS et du poste de DGA avec le remplacement, en fait, par un fonctionnaire de la ville qui sera délégué à temps partiel au CCAS. Je sais, monsieur le maire, que vous aimez un peu les métaphores militaires, mais moi, je ne suis pas sûr qu'un amiral à temps partiel puisse gérer l'armée de terre. Et ce n'est pas faire injure à l'amiral que de dire ça, mais c'est de dire que le CCAS, c'est quand même une structure particulière qui nécessiterait d'avoir un DGS à temps plein et qui soit un petit peu spécialisé dans ce domaine. Voilà le sens de mon intervention.
Merci, monsieur Lebeau.
Monsieur le maire, chers collègues, pour aller dans le sens de mon collègue Yves Wendling, je reviendrai sur la probabilité de faire des économies, et les 250 000 euros. Et je me suis replongé sur le dernier cas de mutualisation qui est le service informatique avant mutualisation. La DCSI a été mutualisée au 1er janvier 2012. Le coût pour la ville était de 3 546 000, plus 0,71 million en investissement, soit un coût de 4 260 000 euros en 2011. En 2012, ça coûtait déjà 4 733 000, soit 500 000 euros de plus. Sachant qu'aujourd'hui, en 2014, on a vu que le budget n'était pas suffisant puisqu'on a dû rajouter 400 000 euros en plus pour les services de mutualisation de l'informatique, on se rend bien compte que la mutualisation source d'économie est un leurre et que souvent, quand on veut faire quelque chose, on cherche une raison. Et je pense que ceci va pas nous conduire à une économie, mais bien au contraire, à des coûts supplémentaires. Parce qu'il y a une somme de coûts cachés qui vont exploser au niveau de la ville. Et là, on va avoir un problème, puisque un des principes de management qui est bien connu, c'est « the small is beautiful ». Plus on est petit, plus on arrive à diriger, et plus les gens sont impliqués. Et aujourd'hui, intégrer ce service, enfin, cette partie d'activité dans la ville de Metz, ça va inexorablement alourdir le temps de traitement, déresponsabiliser les personnes, et on aura un service moins efficace, plus onéreux. Pour preuve, parce qu'une des premières décisions que vous avez prises en 2008, c'était d'externaliser un autre service qui était le service du développement économique que vous avez voulu localiser dans une structure qui était plus adaptée, plus réactive, qui permettait de répondre mieux aux besoins de l'activité économique. Et vous avez écrivé Metz Métropole Développement. Et aujourd'hui, et on peut prendre aussi un autre exemple que m'évoque Yvan Ling, c'est le PCC Metz en Seine. Le PCC Metz en Seine, où on a regroupé différentes structures en disant on va faire des économies, on a vu que ça faisait zéro économique et ça coûtait plus cher à l'issue. Donc, si vous faites ce rapprochement, cette mutualisation dans le but de faire des économies, je pense, monsieur le maire, que vous vous trompez et vous feriez mieux de m'écouter plutôt que de jouer avec votre téléphone. Ça serait plus intéressant et plus important parce que c'est des conseils de bonne gestion et je sais que la gestion, ce n'est pas votre dada. Ça, je sais bien. Donc, soyez attentifs à ce que je vous dis et parce que dans 2 ans, dans 3 ans, je pourrais vous dire que j'ai évoqué ce point-là et on sera malheureusement...
5 ans.
Oui, mais dans 5 ans, ça sera un moment donné où forcément... Pardon ?
Attention.
Merci.
Non, mais je n'ai pas fini. C'est je sais bien que vous êtes tellement concentré sur votre téléphone que vous n'écoutez pas. Et c'est d'une impolitesse...
Si, je vous écoute.
Non, mais vous êtes d'une impolitesse extraordinaire.
Mais
non, mais ça suffit, mais vous dites-le. Mais donc, je veux dire, à un moment... j'attends qu'il finisse son message. Je rappelle ce que dit le maire, je dois m'adresser au maire, c'est ce qu'il me dit souvent. Donc je m'adresse au maire et dès que vous pouvez m'écouter ? Et je vous demande si vous m'écoutez, est-ce que vous êtes attentif au fait que la mutualisation ne sera pas source d'économie ? Est-ce que vous avez bien compris que les exemples que vous avez initiés, que ce soit le PCC Metz en Seine, que ce soit la mutualisation des services informatiques, et que ce soit même d'autres exemples, n'aboutissent pas à des économies. Et que, in fine, on ira vers quelque chose qui coûtera plus cher avec un service moins bon. Je vous remercie.
Oui, je vais revenir au CCAS. Avec cette décision, vous nous faites faire un voyage dans le passé. À la création du premier bureau de bienfaisance le 7 novembre 1796. Vous voyez où je voulais en venir ? Plus de 200 ans après, le CCAS de la ville de Metz se voit dépouillé de ses attributions en matière de petite enfance et de politique senior. Et j'abonde dans le sens de mon collègue Wendling et d'ailleurs dans tout ce qu'il a dit précédemment, parce que cet aspect de la politique senior, donc voilà, on respire. L'intégration de la mission senior n'a pas du tout été clairement évoquée au conseil d'administration du CCAS. Ça n'a pas été mis en avant. Et il y avait pourtant déjà des inquiétudes d'administrateurs. Je reviens au fond. Les avantages de cet établissement, le CCAS, à l'existence administrative et financière proche, c'était déjà l'autonomie de gestion pour éviter la lourdeur de la comptabilité publique, avec donc un budget autonome, un personnel propre, un patrimoine distinct de celui de la ville de Metz. La petite enfance, ça n'est pas une compétence obligatoire du CCAS, mais son intégration constitue un élément crucial d'une politique plus globale de service à la population, l'attrait des familles, le soutien à l'emploi, les actions de prévention sociale. Le CCAS, par ailleurs, grâce à ses analyses des besoins sociaux, est en capacité d'évaluer les besoins de la population, et on sait qu'à Metz, elle se paupérise. Il représente donc une richesse indéniable pour la commune. Le réduire à sa plus simple expression, c'est en faire une coquille vide, avec le risque que ce soit au détriment des plus faibles. Parce que le CCAS, en étant fonctionnellement intégré, va s'affaiblir, perdre des ressources communes pour ses autres missions et donc de la réactivité dans le domaine social où cette réactivité est primordiale. Alors, quelles économies, puisque pour certains, en effet, ça semble être un gros mot, mais c'est quand même un élément qui a été évoqué comme argument pour faire pencher notre choix un certain nombre de fois. Dans le détail, donc la mutualisation des fonctions ressources, ben, ça impose une refacturation, c'est donc un nouveau choc de simplification, ça va faire mal. Il faut faire des conventions sur les prestations et les concours apportés par la ville, en dehors des subventions d'équilibre, et de toute façon, ce remboursement proviendra du même budget qui vient de la ville de Metz. Les déménagements, les échanges de locaux, l'intégration du personnel, beaucoup de bouleversements encore, la suppression des doublons fonctionnels dans l'encadrement, donc deux suppressions de postes, la transformation du directeur du CCAS a déjà été évoquée en un directeur cadre de la ville et à 15% directeur du CCAS sonne comme une mise sous tutelle, un manque d'indépendance, quelles que soient les personnes, encore une fois, qui agissent. Et par ailleurs, les personnes occupant ces deux postes qui ont été supprimés sont reprises, et c'est heureux, mais sur des postes qui existaient mais n'étaient pas pourvus, donc finalement cela aura un coût pour les finances municipales. Économie, enfin, avec le problème de la transmission du patrimoine, qui est encore à étudier, la modification des baux, les conventions d'occupation, les économies, elles vont être difficiles à trouver. Au dernier conseil d'administration du CCAS, on a d'ailleurs dû voter une autorisation de découvert, je ne sais pas quel était le terme exact, pour l'année à venir pour le CCAS, ce qui montre que son autonomie budgétaire se restreint singulièrement. Beaucoup de grandes communes de la taille de Metz sont concernées par la gestion par le CCAS de la petite enfance et des seniors avec le secteur social. Cela a un sens, surtout, encore une fois, avec l'augmentation de la pauvreté, de la précarité à Metz. Et par ailleurs, l'évolution des besoins de notre société en matière de demande des familles et de vieillissement de la population. Vous avez dit lors du conseil d'administration, organiser son propre déclin, ce n'est pas facile pour le CCAS. Je ne vous le fais pas dire.
Merci, monsieur le maire. À la lecture de l'ensemble des points, vous présentez ce rapprochement de la ville de Metz et du CCAS comme l'opération la plus nécessaire de ce mandat pour, selon vos termes, conforter le CCAS dans sa mission de premier opérateur municipal de l'action et du développement social. Oui, j'ai presque eu la larme à l'œil, l'émotion sans doute, tant j'ai eu l'impression d'être en face de la ville, sauveuse du CCAS. Monsieur le maire, je me dis que c'est beau de croire encore au Père Noël. Après tout, cette période y est toujours propice, mais tout de même. Dois-je vous rappeler que notre CCAS est un des plus gros de France, puissant, et que c'est presque un État dans l'État. Et c'est peut-être même cela, monsieur le maire, qui vous fait peur, et que les économies évoquées ne vont jamais se produire en rapprochant le CCAS de la ville de Metz. Avez-vous conscience que nous risquons même tout l'inverse ? Jadis, naguère, les élus qui sont succédés au CCAS ont tous été bien conscients de cela. Tiens, d'abord, on dit que dit Madame Palès de tout cela ? Est-elle contente de voir que le CCAS va devenir une presque coquille vide ? Ce rapprochement, monsieur le maire, c'est un acte éminemment politique, à 3 mois des élections départementales. Le CCAS, c'est un établissement public qui peut être puissant, c'est même le bras armé d'un maire qui est désireux de développer sa politique sociale. Même si c'est vrai qu'il fallait quand même attendre l'arrivée d'une majorité de gauche pour voir la subvention du CCAS baisser de 500 000 euros en 2012. N'est-ce pas, monsieur le maire ? Et si ce n'est pas un acte politique, alors, monsieur le maire, je voudrais savoir ce soir ce qui a réellement motivé ce rapprochement et pourquoi avoir décidé, si ce n'est pour des raisons bassement politiques, de retirer justement la petite enfance du CCAS et même partager la politique senior. Déshabiller Paul pour habiller Jacques, c'est un peu faire perdre du pouvoir à l'une pour donner du pouvoir à l'autre, en somme, non ? Mais je veux être quand même constructive ce soir, monsieur le maire, alors je vais aller plus loin. Vous avez décidé de privilégier aujourd'hui la réduction du train de vie de l'administration et poursuivre en même temps votre politique en faveur de la petite enfance et de l'école. Parfait. Si dans la théorie, je suis persuadée que nous sommes tous du même avis que vous, en effet, faire des économies et privilégier nos enfants, leur éducation, dans les faits, où sont les chiffres qui nous permettent de juger ou de jauger ces fameuses économies escomptées, cette optimisation de moyens ? Les postes d'économie que vous avez récemment évoqués concerneraient ceux de directeur et de directeur adjoint du CCAS, un poste de catégorie C, par anticipation un poste d'ingénieur dans le domaine informatique. Mais quid du nombre de créations d'emplois budgétaires transférés du CCAS aux effectifs de la ville de Metz ? C'est 336,60 emplois très exactement. Pour des économies, moi j'ai plutôt l'impression que nous allons assister à un sérieux gonflement de nos frais de personnel. Du coup, comment parler encore d'économie ? Mais je voudrais quand même vous rappeler, monsieur le maire, que si le statut des employés du CCAS est le même que celui de la fonction publique, le CCAS et la mairie sont deux entités juridiques bien différentes, à commencer par les avantages qu'elles octroient à leurs employés, qui sont souvent considérés comme bien plus avantageux en mairie qu'au CCAS. Je trouve curieux, en outre, de lire au point 6... qu'à compter du 1er janvier 2015, la ville de Metz va apporter son concours au CCAS, notamment dans les domaines de la gestion des ressources humaines et de la gestion du patrimoine, et que notre ville touchera même une prestation du CCAS. En effet, jusqu'à présent, quand le CCAS avait besoin de conseils, d'avis ou même des services techniques, tout se passait bien et il ne payait pas. Donner d'un côté, reprendre de l'autre, c'est un drôle de tour de passe-passe. Alors tout ceci me chiffonne, monsieur le maire, et comme dirait une humoriste bien connue, on ne nous dit pas tout. Je me fais l'avocat ce soir du CCAS, car la richesse des services de celui-ci, la mixité, la proximité entre les services au sein d'un même bâtiment a permis de travailler sur des projets innovants, qui ont même été repris au niveau national. Rappelez-vous la création de places d'urgence sous Jean-Marie Roche, la mise en place de l'intergénération dans les clubs seniors et même les crèches de nuit avec Madame Palès. Conjuguer solidarité dans les moyens et proximité dans la mise en œuvre, et tout cela dans un contexte budgétaire local contraint, le CCAS sait faire. Alors vouloir rapprocher celui-ci de la ville de Metz, c'est loin d'être pour moi une plus-value, c'est même une régression où nous allons plus y perdre qu'y gagner. Outre le fait que je m'interroge donc sur le bien fondé, vous l'aurez bien compris, de cette décision, tant au niveau opérationnel que financière, revenons à l'aspect tout de même purement politique, parce qu'au final, ce rapprochement cache sans doute aussi un autre dossier, la guerre avec le Conseil général. Guerre à laquelle nous assistons tous et qui rejaillit partout. Cela dit, quand je dis guerre avec le Conseil général, c'est la guerre des deux côtés. Hein. Je ne dis pas qui a tort, qui a raison, c'est pas ça. En effet, comment va s'articuler l'action du CCAS et du département ? Quid des conventions ? Ce rapprochement, n'est-ce pas donc pour renvoyer la balle au Conseil général sur des dossiers plus sensibles ou plus politiques ? Nous allons ce soir sans doute assister au hold-up du CCAS auquel je ne souhaite pas participer, donc je voterai contre. Et j'ai une pensée émue pour celles et ceux qui ont été vice-présidents de celui-ci, et comme Christine Genet, qui doivent, et également Madame Palès, qui doivent être bien tristes ce soir, et tout particulièrement Madame Palès, qui va se retrouver au CCAS, sans pouvoir, ou presque. Merci.
Madame, on a fini, Madame Kosik.
Bien. Bien, merci monsieur le maire. La mutualisation vous rend fou. J'ai rarement entendu autant de contre-vérités, de mensonges, de confusions. Et si je partage l'analyse historique de monsieur Van Link sur la question de l'évolution de la prise en compte de l'œuvre, des œuvres sociales sur un territoire, j'en partage pas réellement l'analyse territoriale messine. J'ai plus vécu ça sur les 20 dernières années où j'ai connu cet établissement comme, j'irais peut-être presque jusqu'à la relégation de la vision des œuvres sociales, et puis surtout, comme parfois d'ailleurs, la plateforme électoraliste de quelques élus messins bien connus.
Non.
Alors
non,
moi, je souhaite revenir sur le caractère exemplaire, au contraire, de cette stratégie de rapprochement entre la ville et le CCAS. Elle est à la fois exemplaire sur le fond, mais également sur la forme, parce que oui, pour ceux qui ont à gérer les organisations, ils savent bien que les mutualisations nécessitent un certain nombre d'étapes et que la durée et le temps est un élément essentiel. Sur le fond, Daniel Bory l'a rappelé, nous sommes dans la réalisation d'un projet dont l'objectif est d'abord de répondre aux besoins des familles en matière d'accueil de la petite enfance, mais surtout de construire une politique globale à destination des enfants messins et au service du développement local. Faciliter la vie des familles, le travail des parents, le développement des enfants et directement, et à terme d'ailleurs, une valeur ajoutée pour notre ville. C'est aussi une politique de soutien dans l'engagement militant associatif des seniors, mais aussi l'accompagnement du maintien à domicile et de ses implications. Alors, je réaffirme que ce rapprochement est exemplaire, car je l'ai dit, il a respecté la question du temps. Parce que, monsieur le maire, cette démarche de mutualisation, vous l'avez souhaitée dès fin 2011, en créant le pôle solidarité, coordonné alors par la vice-présidente en charge du CCAS, et qui constituait déjà un organe de concertation et de travail transversal entre des élus. Vous avez voulu alors favoriser la construction de politiques publiques locales, mieux articulées, autour de l'enfance, autour de la jeunesse, autour des aînés, autour des questions d'insertion et des quartiers populaires. Le bilan de notre premier mandat démontre d'ailleurs l'impulsion dynamique créée, soit par la mise en œuvre de réponses nouvelles, ou le renforcement de certains services. Alors oui, nous passons aujourd'hui à la vitesse supérieure, mais cette vitesse supérieure, ce projet, a déjà été annoncé aux messins. Ce projet, il va permettre plus de cohérence et donc plus de qualité dans nos politiques sociales. Il va ouvrir d'autres horizons à des agents qui arrivent dans une grande collectivité, qui va enrichir d'ailleurs cette collectivité d'une nouvelle branche d'activité, d'une nouvelle filière, la filière sociale et médico-sociale. Et enfin, mais seulement enfin, parce que nous aurons respecté l'ensemble des étapes nécessaires à la mutualisation, accord sur le projet stratégique et le temps à la fois de l'information, de l'accompagnement de l'ensemble des agents, et je tiens là aussi à m'associer aux félicitations notamment au directeur et au directeur adjoint, à la directrice du CCAS, qui ont su avec monsieur le maire effectivement mettre en place l'information nécessaire pour que ça se passe le mieux possible. Et puis oui bien sûr, nous allons réaliser des économies. Alors, on va dire tout de suite 300 000 euros, je ne reviendrai pas sur les postes, Madame Grollet. Le poste de directeur et de directeur adjoint du CCAS, aujourd'hui, ces deux personnes occupent un poste existant d'un directeur des ressources humaines qui est parti diriger un autre pôle et d'un poste de directeur adjoint qui était vacant depuis quelques mois. Donc, on n'a pas créé de nouveaux postes à la ville de Metz. Oui, on a effectivement des économies à réaliser tout de suite sur, par exemple, la cotisation du centre de gestion, mais aussi sur la communication. C'est une première étape d'économie, et comme cette mutualisation est réussie, il y en aura d'autres par la suite. Je vous remercie.
Merci, Madame Cossic. Monsieur Lecoq.
Monsieur le maire, chers collègues, je vais faire un éclairage un petit peu spécifique sur un élément qui me tient particulièrement à cœur. car au-delà de la reprise de l'activité petite enfance, ce rapprochement, et je dis bien le rapprochement, Ville-CCAS permet aussi un redéploiement des ressources humaines, en particulier sur la mission Ville pour tous. Et vous savez que dans le précédent mandat, j'ai œuvré beaucoup pour cet aspect Ville pour tous. En effet, cette mission est déterminante tant dans sa transversalité que dans ses champs d'intervention, seniors, la santé, le handicap. Certes, la compétence santé est celle de l'État, et l'accompagnement des seniors et des personnes handicapées, celle du Conseil général. Cependant, la coordination sur le territoire messin, des actions d'information, d'animation, de prévention, incombe à la politique de cohésion sociale de la ville. Cette nouvelle mission Ville pour tous prend pleinement sa place dans la dynamique de mise en œuvre des politiques publiques menées dans les domaines sanitaires et médico-sociaux. La visibilité de la ville s'affirme donc dans cette restructuration. Ainsi, l'Agence régionale de santé, notre interlocuteur privilégié sur le champ de ses interventions, aura dorénavant un partenaire local cohérent et responsable. Comme dans l'élaboration du contrat local de santé, puis dans son exécution, nous pourrons ainsi avoir son soutien, son accompagnement et l'octroi de moyens pour lutter efficacement contre la précarité sanitaire et sociale des médecins et des médecines les plus fragiles. Le rapprochement ville-CCAS est donc plus qu'une réorganisation structurelle, plus qu'une simple recherche d'économie. C'est un projet ambitieux qui réajuste notre politique de cohésion sociale sur notre territoire. C'est une réelle mise en cohérence des politiques de santé nationales et locales. La ville de Metz peut ainsi se féliciter de renforcer un tel outil par l'utilisation pertinente des ressources dégagées dans cette opération.
Merci. Madame Sacco. Pour rebondir sur telle ou telle affirmation.
Oui, écoutez.
Puisque vous étiez rapporteur.
Donc, j'ai entendu trois points sur lesquels j'avais envie d'intervenir. L'idée d'économie. Peut-on faire des économies sur la petite enfance ? Alors, moi, quand j'ai accepté, monsieur le maire, de vous suivre dans votre politique petite enfance, les choses avaient été mises très à plat avec vous. Et je ne vous ai jamais entendu parler d'économie sur la petite enfance, mais de mutualisation. Et ce terme-là me convenait tout à fait, c'est-à-dire mutualiser les services pour les rendre plus performants. Et moi, je m'inscris dans cette logique-là, qui était la vôtre quand nous avons parlé ensemble. Mutualiser, et comme le dit Madame Kosik, ces choses-là vont s'inscrire dans une durée, dans un temps. Et pour le moment, je demande le temps nécessaire pour répondre à cet aspect-là. Il y a l'autre point maintenant, c'est le transfert de la petite enfance du CCAS vers la ville de Metz. Dans un premier temps, monsieur le maire, je voulais rendre hommage effectivement à tout le travail fait par le CCAS à destination de la petite enfance. On sait que c'est une compétence facultative pour une ville. Et on sait que depuis 1990, d'ailleurs, les différentes municipalités l'ont pris à bras-le-corps et ont fait de cette politique ce qu'elle est aujourd'hui. Alors je rends hommage à Madame Genet, je rends hommage à Madame Palaise, qui ont effectivement fait avancer une politique digne de ce nom, alors qu'elle était, je le rappelle, facultative. Vous avez, vous, monsieur le maire, demandé à ce qu'on monte un cran au-dessus. Donc, à partir de là, devait-on rester au CCAS ou devait-on le quitter ? Il y a les deux postures. Il y a celle de M. Wendling qui pense qu'effectivement, il fallait rester dans le CCAS. Ce n'est pas la mienne, ce n'est pas celle de la politique que vous portez et à laquelle j'adhère. Je pense que si nous voulons faire évoluer la petite enfance sur un cran supplémentaire, il fallait qu'elle sorte du CCAS et on en a discuté avec les agents et je peux rassurer M. Wendling que ça s'était compris et par les agents et par Mme Palaise. D'ailleurs, on a eu l'adhésion sans trop de mal parce que ça permet finalement ce passage à la ville de repenser cette politique dans une échelle plus large, plus globale, étant entendu que l'éducation démarre à la naissance et se poursuit tout au long de la vie. Donc ça nous permet, si vous voulez, de permettre une cohérence dans cet aspect-là. Alors maintenant, j'ai entendu parler du Conseil général. Alors le Conseil général, je peux rassurer Madame Singer, parce que j'ai pris contact avec le Conseil général. Et j'ai demandé à m'inscrire dans le schéma départemental de la petite enfance et de la parentalité. Je sais que c'est très difficile en tant qu'élu d'y faire partie, hein, on me l'a dit, mais peut-être que l'expertise qui est la mienne, que j'ai défendue, vont les intéresser pour que j'y participe. Donc de ce côté-là, je vous rassure, je pense pouvoir travailler aussi avec eux. Alors, ceci pour dire tout simplement que la politique petite enfance est une politique trop sérieuse pour en faire des enjeux politiciens. Je crois que c'est quelque chose qu'il faut qu'on porte tous ensemble, parce que la société change, parce que les demandes sont très très fortes de la part des familles, mais aussi des professionnels, hein. C'est-à-dire que quand on travaille avec elles, elles attendent de nous aussi qu'on les accompagne. J'ai aussi d'ailleurs lancé avec l'université des actions recherche par rapport à ceci et cela. Donc je vous demande simplement de nous laisser le temps de travailler et nous rendrons compte de ce que nous avons fait. Je ne sais pas si ce sera parfait, je pense que ce sera certainement critiquable, mais en tout cas la ville de Metz a vraiment l'intention de faire de la politique petite enfance une priorité qui va s'inscrire dans un plan éducatif global. Voilà.
Merci, merci Madame Sagrafena. Merci pour vos explications. Je voudrais simplement rappeler deux choses. En 2008, on a fait un projet municipal où il était indiqué que l'enfant devait être au cœur des préoccupations, et la famille, au cœur des préoccupations de la municipalité. Et effectivement, on a avancé. Je ne cite plus le nombre de fois où on a reçu des brassées de roses et des félicitations de la part de l'opposition. On est toujours sensible parce que ça fait plaisir. Et dans le projet 2014, j'ai indiqué que le CCAS serait recentré sur son cœur de métier et que la problématique qui était très très bien développée à la fois par Madame Bory et par Madame Sagrafena, qui était chargée de la question avec mon prédécesseur au moment des campagnes de 2008, si bien que, franchement, je suis très heureux d'avoir cet héritage, parce qu'effectivement, il y avait quelque chose dans l'héritage, hein, et je suis très heureux qu'elle ait pu reprendre en rentrant dans cette majorité-là, que je dirige, elle aurait pu reprendre les thèmes qui lui sont chers, parce qu'elle est, c'est une grande professionnelle. Je salue aussi Madame Migaud, hein, qui est au travail dans ce domaine-là et dans les domaines liés au social et aux personnes âgées. On a, si je peux m'exprimer ainsi, été rejoint par des personnalités qui avaient un bagage. Alors, pour faire simple, je vais vous dire qu'il y a beaucoup de villes qui ont fait comme nous. On n'est pas du tout en train d'innover. Je vais prendre Lyon, Besançon, Strasbourg, Nantes, on en a mis quelques-unes sur un papier. En réalité, c'est tout à fait classique. Ce n'est pas une dépense obligatoire, mais c'est une dépense très importante pour nous. Et il est nécessaire de veiller au grain. Alors, la question est que on fait des économies, mais ce n'est pas pour faire des économies qu'on fait cette opération. En tout cas, pas seulement. Ce n'est pas le motif. Le motif, il était expliqué, je ne vais pas y revenir, par Madame Bory. On va avoir une cohérence d'ensemble sur le projet en direction de la petite enfance et de l'enfance, puisque nous sommes chargés des enfants jusqu'à l'âge de 11 ans, autour de l'école. Alors, si on nous a tressé des couronnes et envoyé des roses pour ce qui concerne le périscolaire et l'école, laissez-nous agir. Mais nous allons agir dans le domaine de la petite enfance où nous sommes déjà performants, puisque nous sommes à des chiffres, à des statistiques importantes. Nous avons d'ailleurs quelques problèmes, puisque un de nos principes est qu'on n'ouvre pas nos équipements à des gens à l'extérieur de Metz, puisque pour certaines places, c'est 6 000 euros par place et par an. 6 000 euros par place et par an. Et il y a énormément, beaucoup de gens qui veulent venir d'autres communes qui n'ont pas ces équipements-là, pour venir tout simplement les occuper. Et nous sommes en train de discuter pour essayer de savoir s'il n'y aurait pas lieu de mutualiser, parce qu'effectivement, certaines structures sont très demandées, d'autres sont moins demandées, sauf par des gens de l'extérieur de Metz. Nous avons aussi des discussions avec des entreprises qui sont d'accord pour investir et nous laisser gérer leurs investissements en matière de petite enfance. Ça avance très bien. Et alors, au conseil d'administration du CCAS, hein, à entendre l'opposition, On aurait pu croire que ça aurait été une levée de bouclier, toute la vie associative qui était représentée là. Ça a été un rêve. Il y a eu effectivement deux personnes. Alors, je vais vous les citer au hasard. Hein. C'est M. Wendling et c'est Mme Grollet qui n'ont pas voté les décisions qui ont été votées, sinon par toutes les autres personnes qui étaient là, y compris par Mme Palaise, qui y connaît un rayon puisqu'on a encore dit du bien d'elle, et je vous remercie pour elle. Alors, je crois qu'on a fait exactement ce qu'on avait dit qu'on ferait, premièrement. Deuxièmement, dans le sens de ce qu'on avait dit que nous ferions lors de la campagne des municipales, dans une cohérence d'ensemble avec une logique globale. Moi, je suis très, très impressionné par la qualité des documents qui nous ont été fournis par les gens du CCAS qui ont préparé le travail. J'ai présidé, puisque je préside la réunion du conseil d'administration du CCAS, les documents étaient de grande qualité. D'ailleurs, vous les avez, ce sont les mêmes ici en négatif, puisqu'il s'agit de documents qui sont compatibles, bien entendu. Et effectivement, il s'agit d'une évolution, d'un tournant. Je suis conscient que ce n'est pas rien. Ça aura des conséquences intéressantes dans le domaine de la petite enfance, pour les familles, pour les femmes qui sont souvent en charge de leur responsabilité de s'occuper de la petite enfance, largement plus que des hommes en ce moment, il faut bien le dire. Et par-dessus le marché, ça nous amène d'ores et déjà des économies. Et moi, je vais vous dire, je ne fais pas la fine bouche sur les économies. Et ce n'est pas parce que c'est au CCAS qu'il ne faut pas faire d'économies. Qu'est-ce que ça veut dire, ce raisonnement ? C'est incroyable, vous avez fait des économies au CCAS, il ne faut pas toucher à l'argent du CCAS. Mais écoutez, on peut faire des économies partout, et si on peut en faire au CCAS avec un meilleur service, puisque en ce qui concerne le front office, comme on dit, il n'y a rien de changé pour la population. C'est-à-dire que les contacts avec les femmes, avec les mamans, avec les familles, avec les petits-enfants, rien de changé. Tout ce qui se passe et qui est différent, c'est ce qui se passe à l'arrière, c'est le back office. Et donc, laissez-nous travailler. On est aux affaires. On fait ce qu'on a dit qu'on ferait. Merci de vous opposer. Mais là, sincèrement, vous auriez dû dire, bah, écoutez, vous l'avez prévu, c'était dans votre programme, ça amène des économies. Bon, bah, écoutez, bravo. C'est à ça que je m'attendais. Et voilà. Alors, j'ai très bien écouté tout ce qui a été dit. Et je répète, c'est un bon projet. Nous sommes dans le sens de l'histoire, parce que ça se passe comme ça dans beaucoup de villes. Hein, et ce sera mieux pour les enfants et les familles. Alors, je m'aperçois que j'ai oublié de donner la parole à Madame Migaud. J'ai honte. Hein. Madame Migaud, avec mes plus plates excuses, hein, je vous donne la parole après le maire.
Merci, voilà. Monsieur le maire.
C'est de ma faute.
Je voudrais, oui, souligner quand même l'importance, enfin le sens qu'a le fait d'avoir créé une mission ville pour tous, en rebondissant aussi sur les propos de Jean-Louis Lecoq tout à l'heure. Et je dirais même une ville pour nous tous. Il s'agit vraiment de relever le défi du vieillissement de la population. C'est quelque chose qu'on n'aime pas beaucoup regarder en face parce que ça nous fait toujours un peu peur. Et aussi le sens qu'il y a eu à rapprocher la politique senior de la politique handicap et de l'accessibilité, senior et handicap faisant cause commune pour justement construire cette ville pour nous tous. Alors, il va bien sûr que le CCAS nous offre toujours son expertise. Hein, le CCAS pour les seniors jusqu'à maintenant a toujours fait du cousu main en étant vraiment au plus proche des seniors messins. Mais il va y avoir aussi l'enrichissement de l'expertise de la mission handicap et de sa manière de travailler avec ses partenaires associatifs et techniques. En fait, j'aimerais travailler pour que tous ensemble, on prépare notre ville au vieillissement à la manière dont a travaillé la mission handicap jusqu'à maintenant dans notre ville pour rendre notre ville plus accessible. Je vous rappelle qu'on a quand même été destinataire d'un trophée, il n'y a pas longtemps, le trophée APAGE pour l'accessibilité de nos bureaux de vote. La ville de Metz est souvent citée en exemple pour le travail d'accessibilité de notre territoire, de notre ville. Alors, certes, il y a encore beaucoup de choses à faire, on en est tous conscients, mais en tout cas, la méthode de travail en transversalité, on l'a et il faut simplement la multiplier. Je voudrais aussi dire qu'il y ait de notre responsabilité, notre génération, là, qui sommes aux affaires et qui sommes, on va dire, les âgés de demain, de préparer notre propre place dans la société de demain où nous serons très nombreux pour ne pas peser trop fort sur ces générations qui paieront nos retraites. Et notamment la place que devront prendre les femmes dans cette entreprise, parce que les femmes que nous sommes, là, les femmes de 50 à 60 ans, nos parcours n'ont pas été linéaires. Nous serons souvent des femmes seules quand nous serons âgées, avec des moyens financiers qui ne seront pas élevés. Et donc, mais par contre, je crois que nous aurons une capacité à inventer des solutions nouvelles et à une liberté à imaginer d'autres styles de vie. Donc il s'agit bien d'entraîner avec nous, nos concitoyens, pour inventer ces styles de vie nouveaux, peut-être des cohabitations nouvelles, pour que les personnes, les âgées de demain, puissent se projeter dans l'avenir, non pas comme quelque chose de... où on va aller vers une fatalité, mais il s'agit d'apprendre à vieillir. Il y a vraiment un apprentissage à faire et être conscient qu'il y a des choix à faire et nous avons besoin de nous accompagner mutuellement dans cette progression vers une société où les âgés seront de plus en plus nombreux pour que la coexistence des générations puisse se faire de manière harmonieuse et qu'il n'y ait pas une lutte d'une génération contre l'autre. Ça sera quand même très difficile, je pense, pour la génération de nos enfants de devoir nous supporter, effectivement, hein, d'être solidaires et la solidarité devant s'exercer dans tous les sens. Il ne s'agira pas simplement que nos enfants soient solidaires de nous, mais aussi que nous continuions à exercer notre solidarité à leur égard. Voilà, merci.
Écoutez, maintenant, on va pouvoir passer au vote. Alors, je commence par le point numéro 5. Y a-t-il des contre ? Les contre, c'est l'opposition. Toute l'opposition est d'accord ? Alors, donc, on va les compter. Alors, 1, 2, 3, 4. Madame Grenier, est-ce que vous êtes contre le point numéro 4, 5, 1 ? 6, alors, 5, 6, 7, 8, vous êtes contre aussi, Madame Collin-Osterley. D'accord, vous êtes contre le rapprochement. Voilà, OK. Qui s'abstient ? Et 10 abstentions ? Et qui est pour, alors ? Il y a des gens de l'opposition qui sont pour ou pas ? Elle est partie.
Oh là 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 !
Et vous, madame, qu'est-ce que vous avez voté ? Vous êtes abstenue ? D'accord, alors une abstention dans les rangs de l'opposition. Et puis, et une abstention aussi, là-bas ? Non, vous votez pour ? Ah ben, tous les autres sont pour, alors. OK, ben, madame.
Cazin, il est où ?
Votre vote est enregistré, madame. Hein, voilà. Abstention, contre ici, et le reste pour. Très bien. On va recommencer. Est-ce que c'est le même vote pour le point 6 ? Oui, c'est le même vote pour le point 6. On est tous d'accord ? Eh bien, écoutez, je vous remercie. Est-ce que c'est le même vote pour le point 7 ? Eh bien, écoutez, je vous remercie. Est-ce que c'est le même vote pour le point 8 ? Merci. Est-ce que c'est le même vote pour le point 9 ? Merci. Est-ce que c'est le même vote pour le point 10 et dernier ? Eh bien, merci. Donc, voilà, ces points sont adoptés avec des oppositions et une abstention.